L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord.
Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette seconde chronique consacrée aux pionnières. Considérée comme une des plus grandes exploratrices françaises, elle fut spécialiste des cultures orientales, journaliste, chanteuse d'opéra, auteure, exploratrice et adepte de la spiritualité bouddhiste. Elle a traversé le XXe siècle en parcourant le monde et plus particulièrement les massifs himalayens. En 1924, elle a été la première femme occidentale à entrer à Lhasa, la capitale du Tibet. En tibétain, Lhasa signifie « la terre des dieux ». Il s'agit du berceau du bouddhisme. À l'aube de ses 100 ans, elle avait même fait une demande de renouvellement de passeport. Signe que son âme de voyageuse continuait à prendre le dessus sur un corps fatigué. Alexandra Davidel, une vie tibétaine, c'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. La vie d'Alexandra Davidel, un périple à travers le XXe siècle. Alexandra Davidel, de son nom complet Louise Eugénie Alexandrine Marie David, est née le 24 octobre 1868 à Saint-Mandé. Pendant son enfance, elle lit assidûment les romans de Jules Verne et effectuera ainsi ses premiers voyages imaginaires. Elle côtoiera également le géographe anarchiste Élisée Reclus, qui la sensibilisera aux questions anarchistes et féministes. Elle se rapproche des cercles féministes et collaborera au journal La Fronde. Elle finira par prendre ses distances sur les revendications qui sont portées, comme le droit de vote pour les femmes. Pour Alexandra Davidel, le combat prioritaire est l'autonomie financière des femmes. Alexandra Davidel fréquente les milieux orientalistes et finit par se convertir au bouddhisme à l'âge de 21 ans. Elle suit des cours de sanskrit à Paris et s'intéresse à la culture asiatique. Elle sera d'ailleurs une visiteuse assidue du musée Guimet qui a ouvert ses portes en 1889. À la fin du XIXe siècle, Alexandra Davidel entre au Conservatoire Royal de Bruxelles où elle commence son apprentissage du piano et du chant. Au début des années 1900, elle sera même cantatrice et se produira à Hanoï, à Athènes ou encore à Tunis. C'est d'ailleurs à Tunis qu'elle rencontrera, en 1900, Philippe Nel, son futur époux. Son mari mettra sa fortune à sa disposition, mais ils ne vivront que très peu de temps ensemble après la célébration de leur union. Toutefois, les époux échangeront une abondante correspondance jusqu'à la mort de Philippe Nel en 1941. En 1911, elle part pour son troisième voyage en Inde. Elle se rendra notamment à Pondichéry, où elle exercera des activités d'enseignement. Ses différents séjours en Inde lui font prendre conscience des profondes inégalités qui existent dans ce pays, et elle plaidera d'ailleurs pour une suppression du système des castes. En 1912, elle se rend au Sikkim, qui est un état himalayen. Ce séjour sera l'occasion d'approfondir sa connaissance du bouddhisme. C'est lors de ce voyage qu'elle rencontrera Afur Yongden, qui deviendra son compagnon d'exploration, puis son fils adoptif en 1929. En 1912, elle rencontre le 13e Dalai Lama, auprès duquel elle se présentera comme la seule bouddhiste de Paris. Le Dalai Lama lui conseillera d'apprendre le tibétain, chose qu'elle fera à la suite de cette rencontre. Ne pouvant rentrer en Europe en raison de la Première Guerre mondiale, Alexandra Davidel en profite pour se lancer dans un grand tour du continent asiatique, en passant par la Corée, la Chine, le Tibet, la Mongolie ou encore la Birmanie. Au début du XXe siècle, l'accès à Lhasa est strictement interdit aux femmes occidentales. Alexandra Davidel sait pertinemment qu'il lui sera difficile de rentrer à Lhasa, mais sa détermination est plus forte que cette interdiction. Elle effectuera plusieurs tentatives pour accéder à Lhasa. Après plusieurs échecs, elle fait le choix de tenter sa chance en passant par la Chine. Elle part donc pour une longue expédition en compagnie de Yongden, durant laquelle ils vont franchir des cols dépassant les 5000 mètres d'altitude. Afin de ne pas être repérés, Alexandra Davinel et Yongden se déguisent en mendiants en s'habillant avec de vieux haillons. L'aventurière française ira même jusqu'à se noircir le visage avec du charbon afin d'accroître sa crédibilité. Sur le chemin, ils doivent faire l'aumône pour trouver de la nourriture et se sont même retrouvés à devoir jeûner lorsqu'ils ne réussissaient pas à trouver à manger. Alexandra Davinel finit par réussir à rentrer à Lhasa en janvier 1924 et devient ainsi la première femme européenne à accomplir cet exploit grâce à sa ténacité et à sa force de caractère. À Lhasa, pendant 2 mois, elle traduit des textes sacrés et réussit à s'introduire au sein du Potala, qui est la résidence principale des Dalai Lama. Elle finira par être démasquée, puis expulsée. Elle rentre en France en 1925, après un long périple de 14 ans. À son retour, Alexandra Davinel peut constater qu'elle jouit d'une très grande popularité. De retour en France, elle fait l'acquisition d'une propriété à Digne-les-Bains, qu'elle baptisera Samtanzong, qui signifie le temple de la méditation. Cette maison est d'ailleurs considérée comme un temple lamaïste. Maintenant qu'elle vit une vie sédentaire, elle occupe son temps entre la tenue de conférences et l'écriture d'ouvrages. C'est en 1927 que sort son célèbre ouvrage « Le voyage d'une Parisienne à Lhasa » qui raconte son périple à travers les montagnes tibétaines. À l'âge de 69 ans, elle reprend le chemin du voyage et se rend en Chine pour parfaire sa connaissance du taoïsme. Elle décède le 8 septembre 1969 à l'âge de 101 ans. Les conflits sino-tibétains. Le Tibet est une région située au nord de l'Himalaya. L'altitude moyenne du Tibet est de 4900 mètres. La superficie de la région autonome du Tibet dépasse les 1 200 000 km². Sa capitale politique et religieuse est la ville de Lhasa, et la région du Tibet a été créée en 1965 par la République populaire de Chine. Le plateau du Tibet est la source de nombreux fleuves asiatiques, le Brahmapoutre, le fleuve jaune, le Mékong et l'Irrawaddy. Au 7e siècle, l'Empire tibétain recouvre une grande partie de l'Asie. C'est à cette époque que le bouddhisme commence à se diffuser sous l'impulsion de Guru Rinpoche, le précieux maître, qui pose les bases de l'enseignement bouddhiste. La monarchie tibétaine est renversée en 838 et le Tibet se trouve divisé en petites principautés. À la fin du 15e siècle, le bouddhisme tibétain connaît un mouvement de réforme qui donne naissance au lamaïsme. Le lamaïsme repose sur 2 chefs suprêmes, le Dalai Lama et le Panchen Lama. Au 16e siècle, le lamaïsme rallie la Mongolie au bouddhisme, et c'est au XVIIe siècle que le palais du Potala est construit et que le Dalai Lama devient le chef temporel du Tibet. Au XIXe siècle, le Tibet devient le terrain d'une lutte d'influence entre Anglais et Chinois. Le Dalai Lama est à la tête d'un courant pro-anglais, tandis que le Panchen Lama, lui, est à la tête d'un courant pro-chinois. En 1911, les Anglais aident les Tibétains à chasser la garnison chinoise et permettent au 13e Dalai Lama, qui était en exil en Inde, de revenir au Tibet. La situation évolue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Suite au traité sino-tibétain de 1951, la Chine communiste peut occuper militairement le Tibet et diriger la politique étrangère du pays. Au fil des ans, les tensions entre Chinois et Tibétains s'exacerbent, en raison notamment de la destruction des monastères. En 1959, le Dalai Lama se voit contraint de prendre le chemin de l'exil en compagnie de plusieurs milliers de Tibétains. Il trouve refuge en Inde. Alexandra Davinel, une observatrice de la culture tibétaine. Grâce à ses études orientales et à sa longue immersion au Tibet, Alexandra Davinel a pu acquérir une connaissance fine et approfondie de la philosophie bouddhiste. Elle écrira ainsi sur les grands principes de la spiritualité tibétaine et décrira avec moult précision les rites funéraires tibétains, mais aussi les banquets. Dans un registre plus léger, Alexandra Davidnel parlera du fameux migou, popularisé par Hergé dans Tintin au Tibet. En tibétain, migou signifie « homme sauvage ». De nombreuses légendes existent autour de cet homme sauvage, qui serait plus grand que les hommes ordinaires et qui kidnapperait les femmes. Dans les années 1920, au cours d'une mission d'exploration de l'Himalaya, financée par la Royal Geographical Society, des alpinistes découvrent des traces de pas que leur Sherpa attribue au migou. Par la suite, ces traces de pas ont été attribuées à des loups. Alexandra Davidnel relatera l'histoire de reporters du Daily Mail partis au Tibet afin de voir le migou et qui sont rentrés bredouilles, mais avec, malgré tout, des échantillons de rhododendrons. Ainsi s'achève ce second portrait de la série dédiée aux pionnières. Vous avez eu un aperçu de la vie riche et multiple d'Alexandra Davidnel, une aventurière intrépide qui a vécu plusieurs vies en une seule, en ayant comme fil rouge sa passion immodérée pour la culture asiatique et le bouddhisme. Elle aura vécu sa vie comme elle l'entendait, sans jamais laisser les codes sociaux de son époque entraver sa marche vers ses aspirations les plus profondes. Son mariage avec Philippe Nel ne fut pas des plus heureux, car ce dernier ne comprit jamais la quête intérieure menée par son épouse, dont le bouddhisme était le principal catalyseur. Il n'en reste pas moins que les deux époux ont entretenu une véritable complicité par le biais de leur correspondance. Dans son ouvrage « Voyage d'une Parisienne à Lhasa », voici comment elle relate ses premiers contacts avec des Anglais suite à son expulsion de Lhasa en 1924. Lorsque je racontais que j'arrivais de la Chine, à pied, que j'avais voyagé pendant 8 mois au Tibet, traversé des régions inexplorées et passé 2 mois à Lhasa, nul ne trouva tout d'abord un mot à me répondre. Littéralement, personne n'en croyait ses yeux. Il me fut très agréable de rencontrer une jeune fille, la très gracieuse fille de l'agent commercial, dans cette minuscule colonie anglaise. À elle, comme au gentleman résidant à Guernsey, je garde le plus reconnaissant souvenir de l'hospitalité empressée, si chaleureuse que je reçus pendant mon séjour parmi eux. Il me restait encore à accomplir le long trajet de Guernsey à la frontière indo-tibétaine, à travers de hauts cols et des plateaux arides balayé par un vent glacé. Mais l'aventure était terminée. Seul, dans ma chambre, avant de m'endormir, je criais pour moi-même « La Guialo !» Les dieux ont triomphé. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale.